Bonjour à tous. Bienvenue sur Séoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti!
Bonjour Guillaume, bienvenue sur Séoul Connect.
Bonjour Bart, merci de m'avoir invité.
Écoute, avec plaisir. Ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter en deux, trois phrases.
Je m'appelle Guillaume, ça fait plusieurs années que je suis en Corée. Je suis arrivé en 2012 en Suède et je travaille à Shinsegae, qui n'est pas trop connu en Europe, mais qui est une grosse entreprise coréenne. Et, je suis dans l'IA et le machine learning.
D'accord.
Les algorithmes.
Ok, on va creuser ça un petit peu parce que c'est intéressant. Mais d'abord, commençons par Shinsegae. C'est un chaebol ?
Oui, on est à peu près 5000 employés.
Et c'est un chaebol indépendant ou c'est lié à un des gros Samsung, LG
Historiquement, en fait, je ne le savais pas, mais c'était Samsung. Et il y a 24 ans, lors d'un héritage, ce qui se passait, c'est que je crois qu'il y a les fils et les filles du patron de Samsung à l'époque. En fait, ils ont partagé plusieurs entreprises et l'une d'entre elles, c'était donc Samsung qui était liée à tout ce qui est retail, en distribution, et c'est devenu Shinsegae.
D'accord, donc c'est un spin-off un peu de Samsung. Et c'est quoi les grosses lignes de produits ?
Les grosses lignes de produits, en fait, tout ce qui est lié à la distribution, de nourriture par exemple, ils sont vraiment très très gros, donc il y a aussi... des cosmétiques, ils ont leur propre marque aussi. Si je devais résumer quelque part, ce serait un petit peu comme si c'était Carrefour, le bon marché. Ils possèdent aussi Starbucks en Corée, ils ont la licence. Et ils possèdent aussi les bâtiments qui font les grandes surfaces, les départements de store. Et aussi, étonnamment, ils ont des hôtels et ils possèdent aussi la gare routière de Séoul, ce qui est assez marrant. Enfin,
Oui, oui, effectivement, j'ai lu un article récemment parce qu'ils viennent de racheter 100% d'ailleurs de Starbucks en Corée, j'ai vu.
Oui.
Et c'est un convenience store, hein. C'est CU ou c'est lequel, je ne me souviens plus.
C'est Imart en fait.
C'est Imart, voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est les chaînes de magasins Imart. Et maintenant, ils avaient une grosse part dans Starbucks et maintenant, c'est eux qui font Starbucks et ils ont d'autres chaînes de franchise, hein, je crois.
Mais tous les grandes surfaces Shinsegae dans lesquelles on peut acheter des produits de luxe et ils ont aussi leurs propres produits de luxe, comme je disais avant, donc, par exemple, quelques marques de cosmétiques.
Ouais. Et, mais il n'y a pas d'autres chaînes, là, genre pas Burger King, mais enfin d'autres franchises comme ça ?
Ah, si, ils ont quelques... Ils ont quelques petits business à côté, mais je n'ai jamais regardé dans les détails, mais je ne pense pas que ce soit énormément de leurs bénéfices. Par exemple, ils ont une chaîne de hamburgers qui s'appelle, je crois que c'est Johnny Walker. Non, pas Johnny Walker, Johnny quelque chose.
Okay.
Je me souviens plus, donc c'est très, très américain.
Mais ce n'est pas le gros truc, ouais, d'accord. Okay. Ouais. Et donc, toi, là-bas, tu dis que tu es dans l'IA, le machine learning. Donc, plus précisément, tu fais quoi ?
En fait, c'était d'un point de vue mathématique. J'avais la possibilité de faire différentes choses quand j'ai commencé. Et j'ai préféré m'orienter vers tout ce qui était recommandation parce que c'était assez intéressant d'un point de vue mathématique de voir comment est-ce que des nombres, des matrices pouvaient capturer le comportement humain. Parce que parfois, on peut avoir des comportements humains qui sont totalement illogiques par rapport à la description d'un produit. On peut avoir des goûts totalement disparates. Par exemple, c'est pas, on peut détester le sucré et vraiment aimer une seule chose dans le sucré. Par exemple, les glaces. Et à côté, avoir une nourriture très, 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 très équilibrée. Donc, par exemple, d'un point de vue algorithmique, et lorsqu'on construit tout ce qu'on appelle un pipeline, une manipulation de données pour essayer de capturer ce genre de comportement et comprendre pourquoi un utilisateur se comporte ainsi, c'est très intéressant mathématiquement.
D'accord, parce que ça ressemble plus à de la psychologie qu'à des mathématiques pour l'instant. Mais donc, toi, tu mathématises ça et derrière, tu vas faire de la recommandation de produits à la Netflix, quoi. C'est-à-dire, vous avez aimé ça, donc vous aimerez ceci.
C'est ça, avec plusieurs domaines. Donc, par exemple, tout ce qui est upscaling ou cross-selling, c'est pousser un utilisateur à acheter quelque chose de plus cher ou acheter quelque chose de complémentaire aussi. On doit être capable aussi de deviner ce genre de comportement.
D'accord. Mais donc au départ, toi, tu travailles sur les retail, le online retail, donc le e-commerce
Oui,
de Shinsegae, c'est ça?
c'est
D'accord, je
ça, oui.
comprends mieux. Ouais. OK. Et le c'est sur la marque e-mart aussi ou c'est un autre nom de marque?
Oui, mais personnellement, c'est sur une autre de leurs entreprises que je travaille, mais j'ai des collègues qui travaillent avec e-mart et je vais bientôt commencer aussi à travailler avec e-mart.
Ok. Et Imart est gros sur le. Parce qu'évidemment, tout le monde nous parle de Coupang et de Market Curly. Imart est gros sur la partie e-commerce.
J'ai pas le pourcentage, mais je crois que Shinsegae est numéro 3, alors que Coupang est numéro 4 dans ce domaine-là.
Ok.
Et puis en fait avant l'arrivée de bon, non je fais la bêtise en fait je sais pas à quel point Shinsegae est beaucoup plus fort mais ce qu'il faut savoir c'est que Coupang vend beaucoup son Rocket Delivery donc quelque chose lorsqu'on commande on peut avoir dès le lendemain la nourriture chez soi mais traditionnellement par la qualité des produits et la diversité aussi Shinsegae avec son site internet qui s'appelle Suk, qui est assez connu en fait, il a énormément d'utilisateurs et donc il fait énormément de ventes sur ce site-là.
D'accord. Et donc là-dessus, vous travaillez sur des outils de recommandation et de upscaling, en fait, de upselling, je veux dire,
Oui.
on essaie de vendre des produits plus chers, des choses comme ça. Comment dire, vous reprenez des technologies qui ont déjà été développées par des gens comme Amazon ou d'autres, ou vous développez vraiment vos technologies en propre?
En partie, oui, on s'en est inspiré, mais moi j'aime bien. Enfin, je suis assez responsable. Enfin, je suis quelqu'un d'assez important dans la team de recommandation de la création d'algorithmes. Donc, je voulais pousser un peu plus loin. Donc, j'ai essayé de créer des algorithmes propres qui regardent, enfin, qui considéraient les algorithmes de Amazon ou autres comme l'état de l'art. Et en fait, j'essaie d'aller un peu. Je peux pas dire que je fais quelque chose de mieux qu'Amazon. Ça veut juste dire qu'en fait, Amazon avait certaines spécialités. Et elle a aussi une certaine scalabilité. Mais par rapport à un problème précis, il faut savoir qu'est-ce qui est bon dans leur état de l'art et qu'est-ce que nous, on peut améliorer. C'est ça que j'aime particulièrement, en fait. Mais quelque part, c'est aussi une certaine frustration parce que quand on crée quelque chose aussi, on ne peut pas non plus trop en dire. Donc, il y a des modèles assez classiques dans la recommandation. Et on va dire, c'est la base qu'on utilise en général pour à peu près jauger quelles sont les performances classiques d'un outil de recommandation. Mais si on s'arrêtait là, ça n'aurait pas autant de valeur que ça. C'est limite, on n'aurait presque pas besoin d'une équipe pour développer des
Oui.
nouveaux algorithmes. Donc, tout le jeu, c'est de savoir à quels endroits, pas seulement optimiser, mais oser créer des nouveaux portions d'algorithmes qui peuvent justement défier Amazon dans des parties bien précises. Parce qu'en fait,
D'accord.
Amazon peut avoir des données qui sont plus spécialisées pour la vente en ligne, mais qui sont pas forcément liées à la nourriture et qui sont aussi beaucoup plus diverses que par exemple un e-commerce ou alors quelque chose qui est purement lié à la nourriture. Et après, il y a aussi des mathématiques. C'est aussi ça qui est intéressant pour moi, c'est qu'en fait, avec un certain recul, en fait, on comprend rapidement que tout ce qui est lié aux algorithmes, machine learning et à l'IA, il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes. C'est génial pour tout ce qui est investissement, il y a beaucoup de gens qui croient en ce domaine-là. Et oui, il y a beaucoup de technologies qui se développent, mais quand on réfléchit et quand on prend un peu d'expérience dans le domaine, en fait, on se rend compte que beaucoup de ce qui est créé dans ce domaine-là, c'est purement que des maths, en fait. Et souvent, quand on veut créer un petit plus par rapport à la technologie de base qui existe, l'état de l'art, faut juste réfléchir d'un point de vue mathématique. Où est-ce qu'on peut ajouter quelque chose en plus?
Ouais.
Donc, le truc le plus classique, c'est ça ne sert à rien de jurer par l'IA tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut savoir faire un équilibre entre qu'est-ce que l'IA peut faire et à quel moment l'utiliser. Parfois, c'est bien de rajouter quelques étapes ici et là, et en fait, on va vraiment sublimer ce qui peut se créer en IA. Et ça représente parfois la partie IA, ça représente vraiment que oui, ça va peut-être améliorer peut-être de 3% ce qui était capable initialement, ou alors vraiment on va juste ajouter, mais vraiment une toute petite couche, à représenter plusieurs lignes, mais c'est vraiment dérisoire d'un point de vue, on va dire, théorique, par rapport à ce que certains pans des mathématiques peuvent justement apporter.
C'est vrai que c'est un peu un buzzword aussi, IA, alors qu'il y a beaucoup de calculs mathématiques en fait dans l'IA, oui. Et qu'il n'y a pas tellement d'intelligence. Enfin, il y a un peu d'intelligence parfois, mais pas forcément, hein, beaucoup de calculs. L'autre chose intéressante, c'est que justement, toi, tu dis ça, et à l'inverse, il y a tous les gens qui ont peur parce qu'ils ont l'impression que Facebook leur pousse des contents, qu'on lit ce qu'ils font, qu'on les traque, alors qu'en fait, finalement, ça se résume souvent à des algorithmes qui disent bah, si ça se passe, alors ça doit se passer, non ?
Surtout, oui, que enfin, tout n'est pas totalement mature et que au moment, beaucoup, beaucoup des domaines où l'IA ou le machine learning est performant, en fait, c'est assez limité. On ne peut pas, pourrait avoir quelque chose, un peu comme notre propre cerveau, il faut avoir quelque chose de méta qui est capable de dire, bon, dans telle situation, on doit être optimisé, on doit optimiser notre cerveau pour agir de telle manière. C'est-à-dire que, par exemple, si on danse, si on fait du vélo ou si on écrit une lettre, on ne va pas forcément utiliser les mêmes capacités cérébrales, on ne va pas forcément se mettre dans la même condition. C'est exactement la même chose pour les algorithmes, pour l'IA en général. C'est-à-dire qu'il faut avoir des algorithmes méta qui soient capables et qui soient relativement performants et flexibles pour atteindre ce niveau-là. Alors, Google et Amazon parfois disent qu'ils sont capables de le faire. C'est sans doute probable dans une certaine mesure, mais ce n'est pas encore mature. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens investissent, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est le jour où on sera capable d'avoir, on va dire entre guillemets, un cerveau qui est capable de s'adapter à toutes les situations possibles et qui sera vraiment capable, par exemple, de faire la traduction d'un moment et puis d'un autre moment, par exemple, de reconnaître une image et de le faire sans qu'on lui dise quelle est la tâche à accomplir, ça sera une grande étape.
Oui, d'accord. Donc, Shinsegae, avec votre département, ils aimeraient quand même bien développer leur propre technologie et quelque part percer dans ce domaine-là. D'accord. Oui. Tu as carte blanche là-dessus ? Comment ça se passe ?
Non, on a une équipe, mais j'ai quand même pas mal de liberté. Alors, je ne sais pas si c'est parce que on est plusieurs aussi, on est comme une grosse équipe, mais peut-être c'est parce que j'ai un doctorat, je ne sais pas du tout. Qui fait que quand je parle, déjà, on va plus écouter ce que je dis. Pour moi, enfin, c'est souvent en Corée, quand on a plus d'expérience, peut-être plus de diplômes, parfois on peut être vu de manière un peu plus haute. Ce qui n'est pas forcément quelque chose que j'aime, mais ça peut être pratique parfois quand on essaie de véhiculer une idée. Et c'est assez agréable. Maintenant, oui, c'est toujours un travail d'équipe. Moi, c'est ce que j'aime bien, on pourra peut-être revenir après sur ce domaine-là. Mais en fait, avant de vivre en Corée, j'ai vécu en Suède. Et il y a quelque chose que j'ai adoré là-bas. C'est que comme c'était une organisation horizontale, donc rien à voir avec la Corée ou la France c'est un peu entre les deux, c'est que on considérait tous les points de vue. Et en fait, quelqu'un qui était débutant dans un domaine, en fait, comme il avait un regard nouveau et frais, même si parfois il disait des choses qui pouvaient paraître innocentes ou bêtes, en fait, c'était pas forcément bête, parce qu'en fait, la personne qui serait ultra spécialisée depuis 10 ans dans un domaine, au bout d'un moment, elle peut avoir ce problème d'avoir des œillères et de plus se rendre compte d'avoir vu tellement le même schéma se répéter qu'elle va pas forcément voir des opportunités, alors que la personne qui est nouveau dans le domaine peut vraiment dire, ah tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses. Parfois ça peut être vraiment très bête, et parfois ça peut être, ah bah justement le spécialiste va écouter ce que la personne qui a moins d'expérience lui dit et va se rendre compte que, ah oui, c'est vraiment un chemin qu'on n'a pas essayé de prendre, et justement on pourrait peut-être l'exploiter.
Ouais. Mais alors là, en passant de la Suède à la Corée, t'es passé de l'horizontal au vertical,
ouais,
pour le coup.
C'est vrai, c'est vrai.
Et alors, tu reportes à qui ? Pardon, vas-y.
Je reporte à qui ? En fait, dans chaque équipe, c'est un peu pareil dans ce domaine-là. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a le chef de labo, mais il y a aussi le product owner, mm-hmm. qui va vérifier si notre technologie avance bien. Et puis, c'est un peu comme un chef d'orchestre, vérifiant que chaque personne fait bien son travail pour qu'on fasse du développement continu.
D'accord, donc tu as un product owner, et donc pour bien comprendre, lui, son product, c'est quoi exactement ?
Bah en fait, nous, ce qu'on vend, c'est un système de recommandation clé en main pour n'importe quelle entreprise. Il y a plusieurs parties qui sont customisables, Et en fait, ça peut leur permettre d'économiser de l'argent, de juste choisir notre solution. Et vraiment, d'accord, c'est très, très customisable. C'est-à-dire qu'on peut choisir, par exemple, de recommander en se basant sur un événement, enfin, sur un, ce qu'ils appellent des événements, c'est-à-dire sur des promotions, sur des certaines catégories de personnes, par rapport à, je sais pas, au temps qu'il fait, ou alors en choisissant de plus ou moins une certaine quantité de données, ou alors certains algorithmes aussi. C'est vraiment... oui, c'est en fait, c'est ce qui est aussi ça la beauté quand lorsqu'on construit un tel domaine, enfin un tel engin, c'est de le rendre le plus flexible possible pour essayer de coller le plus possible à différentes problématiques. On ne va pas recommander la même chose quand on recommande par exemple à Starbucks, quand on crée un engin de recommandation à Starbucks pour du café, que quand on fait une recommandation de vêtements pour du e-commerce ou quand on recommande de la nourriture sur Imart. Et c'est ça aussi la beauté de se dire comment est-ce que je vais pouvoir créer un système qui soit capable de s'adapter facilement d'un point de vue code à différentes problématiques qui sont similaires mais qui ont leur spécificité.
D'accord. Donc, et après, vous le vendez en marque blanche aux marques du groupe, mais aussi à l'extérieur?
Oui, c'est ça en fait la force aussi. C'est que il y a deux types. En fait, il y a un marché intérieur et un marché extérieur. C'est-à-dire que déjà, en elle-même, l'entreprise a déjà des assises très, très fortes. Elle s'appuie sur ça pour conquérir de nouveaux marchés.
Oui. Et ton chef de département et ce product owner, ils sont coréens?
Oui, en fait, on est tous coréens. Enfin, ils sont tous coréens, pardon. J'ai honte parce que...
Sauf toi.
Mis à part, j'ai un collègue qui a commencé il y a 2-3 mois, qui est chinois, qui est vraiment sympa.
Leur parles en quelle langue à tous ces gens-là?
En coréen. Je ne suis pas parfait, mais disons que pour la vie de tous les jours, ça va. J'ai des amis ici, ça fait 8-9 ans que je suis ici, donc j'ai des amis que je connais qui ont vécu ici depuis plus longtemps, qui sont très, très forts. Mais disons que pour par exemple, pour chercher un travail, pour travailler dans la vie de tous les jours, j'ai un niveau suffisant. Mais ça m'arrive, pour relativiser, par exemple, quand j'écris des rapports, on m'a déjà dit, parfois, tu écris un peu comme un lycéen, c'est-à-dire que ce n'est pas parfait.
Mais tu parles de machine learning, là. Tu ne parles pas de la vie de tous les jours, là. Comment tu arrives à leur parler technique en coréen?
Eh ben, c'est un champ lexical. C'est-à-dire qu'il faut... c'est peut-être ça que j'ai remarqué aussi... quand j'ai vécu en Suède, c'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui m'avait choqué là-bas, c'est que il y a un champ lexical qui est extrêmement dur pour n'importe quelle personne qui apprend une langue, c'est les fleurs. Pas les animaux. Les animaux, c'est déjà compliqué, mais les fleurs.
En suédois,
Ouais, en suédois. Donc, c'est pareil, en fait, dans n'importe quel langage, même en anglais. Connaître toutes les fleurs ou les fleurs les plus communes qu'on pourrait offrir à quelqu'un en français et le savoir en anglais, c'est extrêmement compliqué. Il faut prendre du temps pour les apprendre. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour le machine learning, en fait, j'ai dû apprendre beaucoup de mots mathématiques et au fur et à mesure, c'est assez limité, mais c'est juste qu'au tout début, c'est très surprenant parce qu'on n'est pas du tout habitué à utiliser ce genre de mots dans la vie de tous les jours. Donc, mais au final, c'est peut-être 100, 150 mots maximum. C'est très, très limité par rapport à tout le reste.
Donc, tu parles au boulot plus coréen qu'anglais alors?
Oui, j'ai de la chance que ma PM parle quand même anglais, donc ça m'arrive parfois quand même quand on ne comprend pas techniquement quelque chose, qu'on bascule en anglais, mais ça représente peut-être 5% du temps, parce que tout le monde est coréen et quand on discute dans la team, on parle coréen parce que très peu de gens parlent anglais en fait.
Oui, il y a très peu d'étrangers. Shinsegae, c'est pas Samsung, quoi.
Oui.
D'accord. Et alors justement, comment est-ce qu'on rentre comment est-ce qu'un Français avec une expérience en Suède arrive chez Shinsegae?
Depuis le début ou juste
Oui, c'était pas ta première expérience en Corée en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Donc, j'étais intéressé par mon profil, donc on a discuté et puis on s'est vu et puis ça s'est fait. Mais c'est vrai que c'était étonnant parce que jamais avant je pensais pouvoir rentrer une grande entreprise.
C'est eux qui t'ont contacté?
Oui. On a discuté et puis j'étais curieux de savoir leur technologie parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse depuis mal de temps, les engins de recommandation. Et après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas y aller.
D'accord.
J'étais déjà en train de travailler ailleurs en fait. Et le truc, c'est que c'est ça aussi que je voulais dire peut-être pour les Français qui écoutent, c'est certains Français arrivent à travailler dans des grandes entreprises coréennes, mais c'est quand même très très compliqué en général, même en parlant très bien coréen. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont employés déjà en Europe ou ailleurs et ils viennent directement.
Oui, ils viennent les chercher, effectivement. Oui, oui, ouais, ils viennent les chercher. C'est... Puis c'est surtout, on retrouve surtout Samsung et LG, qui sont quand même plus internationaux. Et moins d'autres groupes. Effectivement, c'est ce que j'ai retrouvé dans les épisodes du podcast. Il y a ceux qu'on est venu chercher au MBA, ceux qui ont été embauchés. Il y a quelques exceptions comme Niels qui travaille à Naver parce que ça fait longtemps qu'il est en Corée et qu'il a eu l'opportunité. Mais c'est un des rares Français dans tout Naver. Et toi, tu es peut-être un des rares Français dans tout Shinsegae. Mais justement, si ça m'intéresse, ça, ils sont venus, c'est LinkedIn. C'est, non, ils ne sont pas trop LinkedIn en plus. Comment est-ce qu'ils rentrent en contact avec toi?
Si, c'était LinkedIn. Alors, je sais pas vraiment si je peux dire ça, mais en gros, ils réfléchissaient à la manière de recruter de nouvelles personnes. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont utilisé. Ils ont utilisé LinkedIn. Et ça s'est fait. Par contre, après, je sais pas trop. Pendant plusieurs mois, ils utilisaient beaucoup LinkedIn. Je voyais, parce que même en travaillant, je voyais mon chef qui cherchait de nouvelles personnes sur LinkedIn. Et on discutait, et après ils ont tout un processus pour recruter beaucoup plus. J'ai pas regardé où c'était, mais
parce que maintenant ils recrutent plus d'étrangers maintenant.
Non, mais ils recrutent de manière classique coréenne avec des notifications sur leur site web ou alors sur d'autres sites web où on peut, enfin, on fait l'information des gens. Je sais pas s'il y a Salamine, mais ce genre de
d'accord, mais en ce qui te concerne, donc ils sont venus te chercher sur LinkedIn, d'accord.
Oui.
On reviendra justement où est-ce que tu travaillais avant, est-ce que tu faisais. Maintenant, ce que je te propose, c'est un grand retour en arrière. D'où viens-tu?
Je viens de la région parisienne, donc en 94, pour ceux qui connaissent. Et j'y ai vécu jusqu'à mes 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, c'est même à l'heure actuelle, dans beaucoup d'écoles de commerce ou d'ingénieurs, on pousse les gens à avoir une expérience à l'étranger.
Ouais.
Et moi, à cette époque-là, je m'étais dit, oui, c'est simple, j'aime beaucoup Paris, j'ai des amis, mais j'aimerais bien voir ailleurs un petit peu, peut-être la jeunesse. Donc, je suis allé en Allemagne quelques mois, c'était sympathique. Mais j'ai pas non plus trouvé ça super, super intéressant.
Donc toi, a priori, c'était école d'ingénieur, j'imagine?
Oui, voilà. Ouais. Ouais. École d'ingénieur, ouais, donc c'était tout ce qui était mécanique des fluides, thermique, ce domaine.
Ah ouais, donc on est encore loin de l'IA, et donc tu te retrouves en Allemagne, d'accord?
En fait, oui et non, enfin, on va y venir lentement, mais sans forcément que moi non plus j'en ai conscience. C'est-à-dire que, on va continuer, en fait, après après je suis rentré en France, et après, en dernière année, j'avais la possibilité de faire Erasmus, donc j'ai pu faire Erasmus en Suède pendant un an. Et donc là, j'ai vraiment aimé, ça m'a donné le goût de vivre à l'étranger. Donc j'ai vraiment réfléchi à pouvoir m'installer là-bas. Et j'avais deux possibilités. Soit c'était de faire un doctorat dans la ville où j'avais fait mon Erasmus, donc je connaissais des gens. Soit c'était de travailler dans une entreprise, mais qui était dans le nord de la Suède. Et en fait, à l'époque, enfin, ce qui est normal, juste en finissant mon Erasmus, j'avais appris un tout petit peu le suédois, mais je parlais pas couramment.
Mais par anglais là-bas, non?
Il parle anglais, voilà. Ouais. Il parle anglais. Et du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est, tu connais des gens qu'à Göteborg, là où j'ai fait mon Erasmus, et je me suis dit, retourne là-bas, le doctorat sera en anglais, tu vas pouvoir apprendre le suédois tranquillement. Et donc, j'ai fait ça. Et c'était bien, hein. C'était intéressant. En plus, ce que j'aimais bien, c'est que le doctorat là-bas, c'est un peu comme une thèse CIF, c'est-à-dire qu'on le fait avec une ou deux entreprises, et il n'y avait pas de grande différence de salaire non plus. Alors qu'en France, parfois, ça peut être plus compliqué. J'ai aussi fait un doctorat quelque part. Enfin, j'étais intéressé, mais ce n'était pas non plus quelque chose que je voulais absolument faire. C'était plus, oui, j'avais envie de vivre une expérience en Suède.
Okay. Le doctorat, c'était un doctorat sur quoi?
C'était un doctorat sur... Il y avait plusieurs choses à faire, parce que ça dure 5 ans quand même là-bas. Mais c'était globalement sur les oscillations dans les moteurs d'avion ou les turbines à gaz. En fait, les oscillations de combustion. Donc, pour expliquer ça de manière simple, en fait, c'est quand on fait un barbecue, par exemple, il y a un feu, et le feu peut faire un certain bruit quand les flammes se déplacent. Et en fait, donc, moi, ce que j'ai fait, c'était de pouvoir faire des calculs pour pouvoir savoir si dans une chambre de combustion, d'un avion ou dans une turbine à gaz, si ce bruit était trop puissant ou aller rentrer en résonance pour détruire la chambre. Et on essayait de vraiment pouvoir deviner comment ce bruit allait se comporter pour pouvoir réduire ce bruit. Et aussi, ça permettait d'augmenter le rendement de ces chambres. Et pourquoi le machine learning? À l'époque, je ne le savais pas. En fait, au fur et à mesure, quand j'ai vu cette culture qui se développait, c'est qu'en fait, pour pouvoir vraiment comprendre la dynamique d'un feu, qui est hautement non linéaire, c'est-à-dire que les flammes, ça se déplace dans tous les sens, c'est pas, ça peut être très petit à un instant, et puis d'un seul coup exploser, quoi, dans une zone, c'est que pour pouvoir comprendre ces comportements-là, on est obligé de prendre des photos ou alors d'enregistrer les calculs d'un software, enfin, des calculs effectués par un software, de voir à chaque moment comment est-ce que les flammes évoluent, comment est-ce que le bruit évolue. Et après, pour pouvoir l'analyser, en fait, il y a tout un jeu où il faut pouvoir être capable de retirer donc, les flammes, et tout ce qui n'est pas linéaire, donc toutes ces petites explosions à droite et à gauche, pour pouvoir ne récupérer que le bruit et savoir exactement comment il se comporte. Et pour pouvoir faire ça, en fait, on a besoin d'algorithmes qui sont extrêmement proches, on va dire, de tout ce qui est reconnaissance d'image aujourd'hui. Pas tous, mais certaines manières pour vraiment comprendre qu'est-ce qui contient une image, c'est extrêmement similaire à ce que je faisais à l'époque.
D'accord, mais ce que je ne comprends pas, la question de novice, justement, je suis le Suédois qui arrive, un moteur d'avion, c'est une technologie éprouvée.
Oui, mais on essaye toujours de réduire, donc on essaie toujours de les améliorer et de réduire le bruit pour le confort des passagers. Et surtout d'améliorer en fait, la consommation de carburant, parce qu'en fait, le carburant se raréfie. Et c'est aussi pour se donner une image plus verte de l'aviation.
D'accord.
Après, okay. Il y a quand même un paradoxe. C'est que, bon, je ne sais pas les chiffres actuels, mais à l'époque, en tout cas, c'était ça qui faisait quelque part assez rigoler. C'était, c'était quelque chose comme... on arrivait à réduire de 7% la consommation, je crois que ça, de carburant sur une décennie. Alors que dans le même temps, je crois que c'était le nombre de passagers multiplié par 50%, quelque chose comme ça. Du coup, quand on faisait l'équilibre des deux, on se rendait compte que même si on réduisait la consommation la production de CO2 par les avions, comme le trafic augmentait beaucoup plus rapidement, en fait, on faisait que limiter le pire.
Oui, 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 c'est pour ça qu'il y en a aujourd'hui qui prêchent pour l'arrêt complet. C'est problématique pour les gens comme nous, mais d'accord. OK. Mais on est encore loin, donc on se rapproche un petit peu de l'IA, mais on est encore très loin de la Corée, là. T'es en doctorat en Suède.
Voilà. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai fait mon doctorat, c'était super, j'ai appris la langue, j'ai rencontré des gens, j'ai vraiment aimé. Mais sur les deux dernières années, il y a deux choses qui sont passées. Déjà, je doutais, parce que je trouvais que socialement, c'était quand même beaucoup plus compliqué là-bas. Au début, je pensais que c'était la barrière de la langue, mais en fait, au bout de 3 ans, quand même, je parlais très, très bien. Même beaucoup mieux que coréen. Hein.
Ah, mais t'as fait 3 ans longue... là-bas. Oui, c'est vrai
non,
que c'est long.
Non, 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 j'ai fait 6 ans. Donc, parce que j'ai eu mon année Erasmus.
Ah oui, 6 ans au total. Ok, d'accord.
Et donc au début, je pensais que c'est parce que je ne maîtrisais pas totalement la langue. Mais en fait, au bout de 3 ans à vraiment apprendre et pratiquer, j'étais quand même devenu très bon. Il y avait aussi des gens meilleurs, mais je veux dire.
Tu parlais bien, ouais, d'accord.
Je parlais tous les jours, oui. Puis j'avais fait en sorte de vraiment m'isoler pour pas trop rencontrer trop de Français. D'ailleurs, à l'époque, je n'étais pas trop, mais... je trouvais que socialement, c'était assez compliqué. Donc, je me suis dit, faisons un test pour voir si c'est vraiment là-bas que c'est compliqué ou si je reviens dans un autre endroit, comment ça va se passer, parce que j'avais mûri, je voulais voir un petit peu. Et en fait, j'avais la possibilité en fin de doctorat de faire un échange doctoral. Et donc, je me suis dit, j'avais toujours rêvé d'aller en Asie. Essayons, quoi. Donc, j'hésitais entre le Japon et la Corée. Mon meilleur pote est à moitié japonais, à moitié français. Et lui, il avait vécu 2 ans au Japon. Il m'avait dit que c'était assez compliqué là-bas. Et puis, si un jour je voulais changer de pays, sur le long terme, c'était pas forcément le meilleur choix à faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la Corée? En plus, quand j'avais la vingtaine, j'aimais beaucoup voir quelque chose de très parisien, mais voir des films indépendants. Et notamment, à l'époque, il y avait la grande hype des films coréens. Donc, sur Paris, c'était Kim Ki-duk, ou même il y avait Maïssa Seagirl, qui est un des grands films coréens, donc une plus romantique des années 2000. Donc, je me suis dit, il y a plusieurs choses qui font que, why not la Corée, quoi.
D'accord, mais c'est un peu énorme quand même ce que tu me racontes, parce que tu me dis, bon, je ne connais pas la Suède, donc socialement, la Suède, c'est difficile, et tu commences à regarder la Corée et le Japon, qui sont quand même des pays aussi qui sont. Je ne sais pas quelle image tu avais, toi, de la Corée et du Japon, parce que justement, s'il y a des pays où socialement on se pose des questions.
En fait, il y a plusieurs choses à dire. C'est-à-dire qu'en fait, en Suède, ce qui était assez. Les gens ne peuvent pas forcément être d'accord avec moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aller en Scandinavie. Ils ont un certain fantasme aussi, je peux comprendre. Hein. J'ai toujours des amis là-bas. C'est juste que, déjà, en fait, on a tout. C'est le pays, entre guillemets, ou les pays parfaits. C'est-à-dire qu'il y a une protection sociale de folie, il y a des crèches partout, par exemple, si on a des enfants, le salaire est vraiment très bon. Enfin, oui, il y a très très peu de, enfin, il y a très très peu de violence. Enfin, c'est vraiment,
C'est le paradis, quoi.
c'est le paradis. Si on aime en plus la neige, c'est super l'hiver. Mais c'est juste
Il
qu'au
faut
bout d'un
aimer le froid.
moment, au bout d'un moment, en fait, moi j'étais dans la deuxième ville du pays, donc c'était 500 000 habitants, donc 1 million avec la banlieue. Au bout d'un moment, enfin quelques années, je commençais à m'ennuyer un petit peu, quoi. Donc je me suis dit, c'est super et tout, mais si ça devient une prison dorée, enfin c'est un peu cash de dire ça, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester, quoi? Donc je me suis
Ah
dit.
oui, d'accord, donc c'était l'inverse, c'était tellement bien socialement que tu voulais plus de challenge et que donc tu t'es tourné vers des pays. Ok,
En
non,
fait,
non, je suis juste surpris sur le choix de la Corée et du Japon pour des expériences sociales. Peut-être, mais peut-être parce qu'on n'avait pas la même image de la Corée et du
non, mais
Japon à un moment donné.
c'est pas la enfin, vie sociale d'un point de vue État-providence, d'un point de vue humain. Moi, je trouvais que c'était beaucoup plus sympa quand même. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus sympa la Corée en fait. C'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens et donc, du coup, parmi ces gens, de se faire des amis. Ce qui est beaucoup plus compliqué en fait en Scandinavie, dans le sens où ils sont un peu peut-être comme les Américains, pas totalement, mais c'est-à-dire qu'il y a cette image, je sais plus, c'était je crois c'est la pêche et quelque chose comme ça, la pêche et le melon. C'est ma soeur qui m'a dit ça. En gros, nous, en tant que Français, c'est une théorie, on serait censé être des melons. C'est-à-dire que d'extérieur, quand on n'est pas les gens, on peut être un peu dur, difficile de rentrer, mais une fois qu'on est rentré, on est super, super sympa.
C'est vrai qu'on est un peu comme ça, ouais,
Alors
d'accord.
que des Américains ou des Suédois, bon, c'est très grossier ce que je dis là. Hein. C'est un peu comme une pêche, c'est-à-dire qu'en fait, l'extérieur est très très mou, c'est facile d'avoir des discussions, on va dire, casual, comme on dirait en anglais, quoi. Discussions forcément très profondes, et puis rencontrer quelqu'un, faut que ce soit au travail ou quelque part, de discuter de tout et de rien. Mais par contre, pour entrer dans le cœur de la personne et devenir vraiment son ami, c'est beaucoup plus compliqué.
Il y a un noyau.
Ouais, y a un noyau, ouais. Donc, cette espèce de différence-là. Alors qu'en Corée, ouais, je trouvais, je sais pas, un peu, ils sont un peu latins quelque part comme nous.
Ah bon, bah là, ouais, d'accord. Bah là, tu me sèches, là, je dois dire. Donc toi, tu trouves que c'est plus. Enfin, je ne connais pas la Suède, donc je ne peux pas comparer, mais tu trouves que c'est plus facile de faire des amis en Corée que en Suède.
Ouais. Après, chacun son expérience, mais moi, c'était
Oui, bien
le
sûr.
ressenti. Après, oui, au tout début, j'avais bien aimé. Et donc après, donc j'ai fait cet échange, j'ai tout construit parce qu'il y avait quasiment rien. En 2012, je pense qu'il y avait très très peu d'échanges dans les universités, donc j'ai tout construit, j'ai convaincu mon chef en Suède, on a trouvé un financement, puis j'ai trouvé une université qui était à peu près dans mon domaine, et on a créé je sais plus ce qu'ils appellent un memorandum of understanding, et j'ai pu partir 5 mois en Corée
Ah d'accord, donc c'est
en
toi qui as
2012.
monté le partenariat entre une université suédoise et une université coréenne.
Ouais. Et quand je
D'accord.
suis arrivé, pour...
Et un peu par élimination, si je comprends bien, puisque ton pote a dit le Japon oublie, donc tu as dit bon bah il me reste la Corée. C'est ça sur les deux que
ouais,
tu avais.
j'ai hésité, puis je me suis dit oui, ouais, je me suis dit en fait la Corée a l'air plus intéressante avec les retours que j'avais, quoi.
D'accord. Et là on est en
12.
2012. D'accord. Donc là, tu pars en Corée pour...
Pour 5 mois. Et en fait, bizarrement, comme je savais qu'après je devais rentrer en Suède pour finir mon doctorat pendant 1 an, je me suis dit, bon, bah, faut vraiment que tu vives ça à 100% parce que tu sais pas si tu reviendras un jour. Je sais pas, c'était légèrement différent parce qu'en Suède, j'étais établi et donc, quelque part, mon quotidien, un petit peu comme un quotidien quand on vit dans son propre pays, c'était établi. Alors que, sachant que c'était une durée limitée, j'ai vraiment essayé de rencontrer des gens, enfin, dans plein d'endroits. Puis oui, et puis j'avais un certain choc culturel aussi, puisque c'était complètement différent de l'Europe. C'est aussi ça qui m'a étonné, c'est que je m'étais dit oui, je connais bien l'expatriation, ça va être facile, je connais les deux, trois les étapes, mais quand on arrive en Asie, on n'est pas prêt. Hein. Enfin, il y a deux, trois choses qu'on sait par rapport au manque de son pays, mais le choc culturel, on l'a. Hein.
Ah oui, clairement. Bah, oui, une expatriation en Europe et une expatriation en Asie, c'est pas le même niveau, ça c'est sûr. Elle était où cette université? C'était laquelle?
Sejong, donc c'est près de Kandae. Il y a aussi le Children's Grand Park, en Colombie-Dongguan.
Aucune idée. Donc, c'est dans
C'est
lequel?
à l'est de Séoul.
Ah, mais c'est
Oui,
dans Séoul.
c'est dans Séoul. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas qui est aussi assez connu, qui est un
D'accord,
peu
non, mais
plus
je veux dire,
loin?
c'était
Ouais.
dans Séoul, quoi. Non, tu aurais pu
J'étais
être,
dans
je ne
Séoul.
sais pas où, à Daegu
Dans
ou
Séoul, ouais.
à... D'accord. Donc, tu étais dans Séoul, donc là, tu en as profité à fond, effectivement, parce qu'en plus,
Ouais.
c'était dans le vrai, là, tu étais dans le dur, d'accord. Donc, tu rentres en Suède.
Je rentre en Suède et en fait, là, je me dis, ouais, bon, c'est bon. Enfin, je suis bien en Suède, mais c'est clair, je ne veux pas rester. Donc, j'ai tout fait pour finir mon doctorat ultra rapidement. Je savais que j'avais besoin d'un an. Et même, je me rappelle à la fin, j'avais eu un papier surprise. Mon chef me dit, ah, tiens, ce serait bien qu'on fasse un papier en plus là-dessus. Alors que je pensais avoir tout fini. Donc, j'ai vraiment bossé comme un fou pour partir. Parce qu'en fait, c'est assez bizarre le sentiment quand on se dit, c'était bien. Mais j'ai envie de passer à l'étape suivante, donc on n'a pas forcément envie de trop s'attarder. Et puis il fallait quand même que je finisse mon doctorat, quoi. Mais pour être précis, enfin, j'ai fait ma soutenance. Je crois que c'était le 13 juin, un truc comme ça. Le 14, je prenais l'avion, quoi.
Ah oui, d'accord. Donc à fond sur la Corée. Tu prends l'avion pour faire quoi?
En fait, j'avais discuté du. Comme je savais que j'avais un an pour finir mon doctorat, même si c'était assez intense, j'avais quand même un tout petit peu de temps pour discuter avec les gens que j'avais rencontrés. Et notamment un ami français qui m'avait dit, parce que j'avais dans l'idée de faire un peu comme en Suède, dans le sens travail et le soir, t'étudies la langue, et normalement en 2 ans, 2 ans et demi, ça devrait être bon, tu devrais pouvoir parler, quoi. Et en fait, il m'a dit non, 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 parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, je le croyais pas, mais c'est que la barrière de la langue est plus importante. Il avait raison. Et aussi, l'autre chose qu'il m'avait dit, et là, il a aussi raison, c'est que la plupart des entreprises, en fait, on peut aussi travailler le soir. Ça dépend. On sait pas. On peut pas savoir tant qu'on travaille pas dans une entreprise coréenne. En fait, ça dépend de l'entreprise coréenne. Mais souvent, ce que les Coréens appellent yagun, donc travailler le soir, donc travailler en plus le soir. Et donc, du coup, c'est très compliqué si jamais on tombe dans une entreprise pareille, de travailler et en plus le soir étudier soi-même pour apprendre la langue. C'est complexe. Donc
Oui,
moi, je
mais
m'étais dit bon.
et au-delà de ça, tu as quand même le syndrome de l'œuf et de la poule, là, parce que tu arrives sans parler la langue. Donc, quel travail tu espérais trouver?
Ah non, bah, on écoute, non, bah, je sais pas, j'étais peut-être, je m'étais dit oui, en tant qu'ingé, ce sera peut-être facile, ce qui était faux, hein.
Non, c'est vrai que c'est plus facile en tant qu'ingé que comme commercial ou marketing, parce qu'il y a plus de besoins et que vous avez plus de spécificités, alors que dans d'autres fonctions, ils peuvent trouver des locaux. Alors que c'est vrai que bon, il y a beaucoup de gens qui vont chercher, c'est soit des MBA, soit des ingénieurs quand même. Mais
Oui.
quand même, il fallait t'arriver, tu venais chercher un travail, hein, c'est ça, tu n'avais pas déjà.
Bah en fait, c'était mon idée. Et donc, mon ami m'a convaincu. Il m'a dit, fais pas ça et va étudier d'abord le Coran. Donc, je me dis, OK, on va faire ça. Donc, j'ai pris sur mon budget et tout. J'avais quand même un peu d'économie à l'époque. C'était, comme j'avais dit, la vie en Suède est très, très confortable. Et je me suis dit, bon, OK, prends un an à fond. Normalement, si tu fais un an à fond, tu auras le temps d'étudier. Et à la fin des un an, tu pourras chercher un travail. C'était mon plan, quoi. Après, ce qui s'est passé, c'est que certaines choses n'étaient pas prévues. C'est-à-dire que moi, j'ai une stratégie très particulière quand j'apprends les langues. Je suis scientifique. Donc, je fais ça un peu comme du bourrage de crâne. C'est-à-dire, ça doit être une certaine logique. C'est-à-dire que j'apprends une règle de grammaire. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'applique. J'apprends des tonnes et des tonnes de mots. C'est comme ça qu'ils s'appliquent. En fait, comme le coréen et les langues européennes ne peuvent pas se traduire comme ça de manière littérale, au tout début, ça m'a fait. J'ai eu un gros choc et j'ai eu du temps à m'adapter. Il m'a bien fallu 3 mois pour comprendre qu'il fallait que je change de stratégie
Oui,
pour
il faut
apprendre.
mettre sa logique de côté. Ouais. Il
Ouais.
faut vraiment repartir avec un nouveau logiciel. Ouais.
Ouais. Et donc du coup, bah ouais, donc j'avais prévu un an et en fait, bah, j'ai repris un peu sur mon budget. J'ai pris 6 mois de plus, juste le temps de peaufiner et après de chercher un travail. Mais
Mais ça veut
c'était.
dire quoi? Ça veut dire que tu t'étais inscrit à une université où tu apprenais le coréen 8 heures par jour, c'est ça, pendant un an?
Ouais, c'est ça. Enfin, un an, puis c'est devenu un an et demi en fait. Oui, donc c'était Sogang, une université connue, parce que mon ami m'avait
Oui.
dit, il me l'avait recommandé. Donc maintenant, c'est très très connu. Et voilà. Et en fait, c'était 4 heures le matin, et puis l'après-midi, on avait beaucoup d'exercices.
D'accord, mais temps plein pendant un an et demi, tu apprends le coréen.
Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Hein. Enfin, beaucoup de gens peuvent le dire, il faut toujours continuer. enfin, quand on est motivé. Moi, ça, avec toutes ces années, ça dépend des moments. Parfois, j'étudie, parfois, je n'étudie pas.
Mais c'était bien, ça... mais c'était chiant quand même, non ? C'est de passer toutes ces journées, tout son temps à apprendre.
En fait, ça, t'as dû souffrir ça dépend, un peu quand même. Ça dépend de la passion, parce que, ça dépend de la passion, parce que moi, je suis pas traducteur ou je suis pas prof de langue, mais je trouve quand même qu'il y a une certaine beauté quand on apprend des concepts dans une langue étrangère. Et j'avais beaucoup été touché par ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que je garde de la Suède aussi. Il y a certains mots ou certaines chansons, la manière dont elles sont décrites, qui, je trouve ça très, très beau en suédois. Et c'est pareil en coréen. C'est-à-dire qu'il y a parfois, je vais avoir des expressions, c'est bête, hein, mais je vais me dire, waouh, c'est vraiment super bon. Quoi. Et en fait, j'aimais bien ça, ou de comprendre comment est-ce qu'un verbe, par exemple, était exprimé en coréen par rapport à une version européenne. Ça me faisait réfléchir sur moi, comment est-ce que, même si je n'ai pas de notion de grec ou de latin, je me disais, ah tiens, je pense que ça vient de telle notion, et ça vient de telle notion, et parfois j'aime bien regarder.
Donc toi, tu as pris du plaisir, vraiment, beaucoup de plaisir à apprendre pendant un an et demi le coréen.
Oui, bah, après, ce que j'aimais pas trop, c'était le côté très scolaire. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, quand j'ai trouvé une méthode dans laquelle je me sens adapté, j'essaie de bien suivre ma méthode. Et par exemple, quelque chose qui m'avait énormément frustré, c'est que j'aimais bien apprendre des mots, pas forcément qui étaient dans le livre de cours. Et ça m'était, je me rappelle, je crois que c'était au niveau 3 ou quelque chose comme ça. Donc j'avais appris des mots, chaque trimestre, ça dure 3 mois, pardon. En fait, c'est qu'on avait des examens tous les 3 mois. Et en fait, donc pendant ces 3 mois, j'avais appris d'autres mots aussi, parce que j'essayais de m'enrichir mon vocabulaire. Et on avait une dissertation, et j'avais essayé d'écrire quelque chose avec des mots que j'avais appris à l'extérieur. Et je me rappellerai toujours une des profs qui m'avait dit, c'est bien gentil, t'as écrit ça, c'est super classe et tout. Mais en fait, c'est pas dans le barème de notation. Et en fait, et donc ça a été un choc pour moi, et ça aussi c'est un choc par rapport à la Corée. Et après, donc je me suis adapté pour le niveau suivant. C'est que, enfin, ils s'en fichaient. Ce qu'il fallait juste, c'était qu'on colle, enfin, on soit bien sur les rails, quoi. Il y avait ces points de grammaire là à voir, il y avait ce vocabulaire à voir dans l'examen. Il fallait absolument que ça soit ça qui soit vu. Qui pas dans les questions-réponses, quand on avait plus une expression libre.
Donc ça, oui, aussi, mais bon, avec le recul, moi ça m'étonne pas. J'imagine que toi aujourd'hui, ça t'étonne pas non plus.
Non.
Mais effectivement, oui, ça a dû surprendre. Non, mais surtout, tu devais même, bon, toi, tu étais vraiment un stakhanoviste du coréen, mais de toute façon, tu sortais, j'imagine, le soir, tu rencontrais des gens, donc tu devais aussi apprendre du vocabulaire un petit peu en dehors du cursus, quoi. Ça, ils doivent bien le savoir quand même, les profs, que vous avez une vie en Corée, donc vous regardez la télé, vous apprenez avec des gens et tout. Ils n'encouragent pas ça, en fait.
Bah, je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, moi, c'est juste que le jour où cette prof m'a dit ça, j'étais vraiment choqué, quoi.
Ouais, c'est
clair. Je me suis dit, waouh! Et donc, le truc le plus marrant, c'est que donc, au niveau d'après, quand j'ai fait, OK, c'est ça votre système, en fait, il y avait eu un autre examen. Et en fait, j'avais appris de manière. Je savais que ça allait être des expressions toutes faites qu'il fallait répéter plus ou moins pendant l'examen. C'était un des examens, quoi. Et donc, moi, j'avais vraiment bachoté de manière bête et méchante. En fait, j'avais réussi à avoir la meilleure note pour cet examen-là. C'est pas du tout pour la péter, mais en fait, je me rappellerai toujours d'une autre prof donc, qui m'a fait hey, « Mais Guillaume, comment ça se fait? T'as fait mieux que les Japonais et tout. » Et je lui ai dit « Au niveau 3, vous m'aviez dit qu'il fallait tout apprendre par cœur. Bah voilà, je fais ça. » Ça veut pas dire que je les maîtrise totalement. Hein. C'est juste que j'ai collé à votre modèle. Quoi. Après, « Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. »
D'accord. Et donc, un an et demi, t'as un niveau qui te suffit. Qu'est-ce que tu fais après? Donc, on est mi-2013, c'est ça?
Non. Enfin, je suis arrivé en Corée, en fait. Je suis revenu en Corée en 2000. J'ai fait mon premier échange doctoral en Corée en 2012.
Ah oui, c'était le premier échange.
Donc, après, je suis revenu en Suède un an.
Ouais.
Je suis revenu en Corée en juin 2013. Et le temps que je finisse un an et demi à Sogang, on était fin 2014. Donc, j'ai commencé à chercher un travail fin 2014, début 2015. Et donc, pour m'armer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un working holiday. Et je m'étais dit, bon, OK, j'aurais au moins ça, j'aurais au moins cette protection-là pour voir comment ça se passe au début. Donc, j'ai commencé un peu à chercher. En fait, j'ai eu la chance qu'un de mes amis avait dû quitter un poste de courte durée dans une entreprise. Donc, j'ai commencé par faire ça, ce qui m'a permis de faire un tout petit peu d'argent quelques mois. Donc, je travaillais pour une entreprise qui sous-traitait à LG donc, pour améliorer son application de reconnaissance vocale pour son téléphone.
Donc, c'est un Français qui t'a laissé son poste, en gros, c'est ça ?
Oui, voilà. Il était embauché par une entreprise. Et donc, si je me souviens bien.
D'accord.
Ouais. Très sympa de ce point de vue-là. Et donc, et après, en fait, donc c'était sympa. Pendant 3 mois, c'était comme ça. Mais ce qui m'a énormément frustré, c'est que bah, je continue à chercher. Mais en fait, quand on n'a pas de vision, quand on ne sait pas où on va, en fait, on peut, même si on gagne un peu d'argent, on est obligé de tout garder parce qu'on se dit, ouais, ça se trouve, dans un mois ou deux, ça va être horrible. donc, j'ai commencé à chercher, à rechercher et tout. Et c'était compliqué. Je n'ai pas réussi à trouver directement. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, jouons la carte que je ne voulais absolument pas jouer. Mais je me suis dit, bon, on va postuler pour quelque chose qui ressemble à un post-doc dans une université. Donc là, tout de suite, facilement, j'ai commencé à avoir des réponses. Le problème, c'est que souvent, ça peut arriver qu'il y a des très bons, il peut avoir des très bons postdocs. J'ai entendu un ou deux ici de gens de étrangers qui ont réussi à avoir des postes, on va dire, raisonnables et relativement correctement payés. Mais le problème, c'était ça, c'était que la plupart des postdocs n'étaient pas très bien payés. Le pire, c'est que beaucoup de Coréens sont encore moins payés que ça. Quoi.
C'est triste. T'es logé, non?
Non. Mais en fait, donc j'ai réfléchi à ce moment-là, parce que c'est un moment et tout. Donc j'avais quand même 1 an et demi d'apprentissage en vivant sur mon argent. J'avais quelques mois où je m'étais fait un tout petit peu d'argent. Donc, en travaillant pour cette application. Et je me suis dit, bon, là, il faut être, faut voir, parce que sinon, ça va être, je vais devoir rentrer en France. Parce que je voulais pas brûler encore plus d'argent. Ça commence à me rendre fou, quoi. Et je me suis dit, bon, accepte un des postes et temporise. Au moins, tu auras une rentrée d'argent, même si elle est faible. T'auras un visa avec. Donc, j'ai réussi à. Donc, je suis passé dans un visa chercheur. Je me souviens plus, je crois que c'est un E3, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, ok, fais ça. Et travaille au début. Donc, au début, j'étais content parce que même si c'était pas super bien payé, en fait, ça permet de souffler. On se dit, bon, il y a un tout petit peu d'argent qui rentre. J'ai un statut fixe pendant un an.
Ouais, c'est voilà, cool. Ouais. T'étais en mode. Je peux préparer la suite. Ouais.
Donc, c'était même si j'avais toujours la sécurité, j'avais encore, je crois, 6 mois de working holiday, je m'étais dit, fais ça parce qu'au moins, en plus, tu auras des rentrées d'argent fixes. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. Bon, 6 mois, je me suis un peu reposé. Et après, les 6 derniers mois, j'ai recommencé à postuler beaucoup. Parce que c'était, je commençais à savoir ce que c'est, en fait, en Corée. Et ouais, je n'étais pas non plus parfait en coréen, mais bon, je faisais tout à la coréenne, c'est-à-dire les CV, les lettres de motif à la coréenne, etc., en priant pour voir. Et donc, ouais, j'en ai donc au final, j'ai eu quelques opportunités et finalement j'ai accepté de travailler dans une entreprise qui était dans les énergies renouvelables. Donc, c'était assez agréable. Donc, je faisais des petites solutions qui étaient un poteau qui peut être plus ou moins grand, voire une petite centrale en fait où au-dessus il y avait une éolienne de petite ou moyenne taille. Et avec quelques panneaux solaires, en fait, avec on pouvait rajouter dessus plusieurs choses, donc tout ce qui était smart caméra, signalisation, qui voulait vraiment le patron disait, je veux faire avec ce poteau qui a une auto-alimentation, je veux en faire l'iPhone des poteaux quelque part, je veux faire le truc le plus intelligent possible pour le mettre un peu partout. Mais ce qui était vrai, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de business, et notamment par exemple, dans les champs, c'était très pratique parce que ça permettait d'avoir une station électrique autonome. Il n'y avait pas besoin d'énormément d'énergie pour ça. On pouvait surveiller des serres, on pouvait surveiller des enclos. Ultra pratique. Et ça me permet aussi de rencontrer des gens du monde entier parce que j'étais aussi le seul non-coréen dans la boîte, donc j'ai réussi à rentrer. Et en fait, ils me demandaient, par exemple, d'essayer de trouver de nouveaux marchés, même quand il y avait des conférences, donc à discuter. Avec le Costa Rica, le Sénégal, et on avait gagné quelques petits marchés.
C'est presque plus un job de commercial, ça.
Ouais, mais en fait, comme j'étais le seul étranger, après coup, j'ai découvert qu'il y avait une personne qui parlait à peu près de l'anglais.
Ah oui, le seul qui parle anglais, tu veux dire.
Souvent, c'était ça. Et puis aussi, ça faisait bonne figure si on avait réussi à. Ouais, en fait, il y a deux écoles, c'est-à-dire que c'est très compliqué de rentrer dans une boîte coréenne. Mais une fois qu'on a réussi à convaincre le patron de se faire embaucher, en fait, ils ont quelque part, ils sont contents parce qu'on est un petit trophée. C'est pour eux. C'est-à-dire que, voilà, on va avoir plusieurs cartes. Au moins, ils veulent essayer de voir si on peut avoir plusieurs cartes à notre arrière. Parce qu'on représente, on peut peut-être leur permettre d'atteindre le marché américain, le marché européen. Ils essaient de voir.
Oui. Tu es le technico-commercial, quoi, qui est capable de parler de la technique, mais aussi de vendre des produits, de parler en anglais, présenter entreprise, multicarte. Et ça, c'était une petite boîte, ça.
On était 40 personnes quand même. Mais
Peu, mais ça
ouais.
reste quand même une PME,
Oui.
ouais, d'accord.
Ouais.
OK.
C'était agréable.
T'es resté
D'ailleurs,
là
j'ai
combien de
été
temps? Pardon.
3 ans et demi. C'était 3 ans et demi, c'était vraiment sympa.
Et
Et
ton titre, c'était quoi?
mon titre là-bas, c'était bah, j'étais daily, mais j'étais oui, donc j'étais ingénieur calcul, parce que je fais de la modi, je fais aussi bien la modélisation, donc pour ce qui était leurs éoliennes, tout ce qui était mécanique des fluides, mécanique, et aussi tout ce qui était data science. Donc on devait être capable de pouvoir juger, par exemple, où poser nos éoliennes, si on était près d'une plage ou dans telle ou telle ville. Donc on voulait voir qu'est-ce qui était le modèle le plus intéressant
D'accord.
pour conquérir des marchés. Donc c'était un peu tout ça. Donc, il n'y avait pas tant que ça en fait de monde dans l'entreprise qui était capable de faire du calcul, enfin de la programmation scientifique. C'est-à-dire pas, enfin, en gros, ce que j'appelle programmation scientifique, c'est pas la programmation de pages web ou d'applications, mais vraiment voilà, donc, créer des algorithmes, des calculs, enfin faire des calculs massifs pour pouvoir voilà, enfin, avoir des insights sur tel ou tel comportement, quoi, sans forcément que ce soit très poussé.
D'accord. Ils
Mais
sont à Séoul?
oui.
Ok,
Donc,
donc tu trouves ça, tu passes 3 ans et demi là-bas, et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
en fait, à ce moment-là, c'est assez intéressant parce que moi, je pensais déjà peut-être partir plus ou moins dans. Enfin, ça fait déjà 6 mois que je réfléchissais et je me dis, bon, ok, ça fait encore 6 mois de plus. Donc, je me dis, dans cette année-là, sans doute qu'on va commencer à réfléchir parce que j'étais très bien là-bas, mais je me dis, ouais, testons ailleurs, quoi. Et en fait, à ce moment-là, le patron nous dit, oui, en fait, on a développé pas mal de trucs, mais je pense qu'on n'a plus besoin du département de développement. On était 10 ans quand même. Je pense que pendant plusieurs années, on va arrêter le développement pur et on va essayer juste de vendre les produits qu'on a déjà. Et il nous dit, ouais, je vous donne 2 mois de salaire en plus, mais vous allez devoir partir l'entreprise. Donc, choc
Ah ouais, comme ça, ouais, clairement.
pour les 10 personnes. Mais quelque part, on l'a remercié, enfin, on l'a remercié quand même. Enfin, il a quand même été super sympa de nous donner 2 mois en plus, alors qu'on n'avait pas besoin d'aller dans l'entreprise, quoi. Ça fait vraiment, on a pu.
Mais t'étais en E7 là ou t'étais en quoi comme visa à
Non,
l'époque?
j'avais. Enfin, en fait, quand j'ai commencé l'entreprise, j'étais en E7. Et en fait, j'ai tout fait le plus rapidement possible pour passer en F27, c'est ça. Donc, visa résident, Gojo visa. C'est un visa qui peut être de 3 à 5 ans. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu 5 ans. Ouais. Et
Ah
donc,
oui,
pour moi,
d'accord,
c'est.
tu étais déjà passé en F2, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, tu as un employé, tu ne peux pas le virer comme ça du jour au lendemain. Il y a des compensations, non, en Corée?
Oui, bien sûr, il y a eu tout le reste. Mais ce que je veux dire par là, c'est. Je parlais juste de la chose anecdotique qui est dit que je trouvais ça assez cool de sa part de.
D'accord, oui, il vous a prévenu 2 mois à l'avance, en gros,
2 mois à l'avance en
que.
disant je
Ouais.
paierai quand même 2 mois en plus. Et, ça me permet. Et moi, je m'étais
D'accord.
dit, ouais, ça accélère un peu mes plans. Et je m'étais dit, en fait, il faut absolument que j'ai un diplôme en data science. Pas parce que j'ai pas les capacités, mais parce qu'en fait, je m'étais dit, si je renouvelle mon visa, à tous les coups, enfin, l'immigration va me dire quelque chose comme oui, c'est ton diplôme, c'est pas exactement ça. Donc, je voulais vraiment sécuriser la chose. En fait, ce que je me suis dit, c'est bah, allons-y, profitons de ce temps-là et essayons de faire une petite formation rapide. Ça m'a pris quelques mois, mais bon, c'était moins qu'une année, c'est 4 mois, 4 mois, quelque chose comme ça, 4 mois. Et donc, j'ai fait une formation en ligne pour prouver que j'avais ce diplôme. J'ai appris quelques trucs aussi. Hein.
Ah oui, ok.
Et voilà. Et en fait, ce qui est aussi marrant, c'est que. Ouais, donc, c'était en septembre quand on l'a su. Non, 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 pardon, je dis en début octobre. Et en fait, moi, j'avais prévu de voir ma famille en décembre. Et je m'étais dit, oui, ça va être compliqué parce que si je veux demander, j'avais aussi la capacité de demander le chômage en Corée. Et en fait, je vais étudier la chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Corée, on ne peut pas mettre sur pause quand on a le chômage. Une fois qu'on le lance, il continue. On peut dire, j'abandonne un mois. C'est-à-dire qu'on peut, si on dit au gouvernement coréen, alors ce mois-ci, je ne serai pas en Corée, et ben en fait, le gouvernement coréen dit, OK, dans ce cas-là, vous n'avez pas vos allocations. Donc je me
On
suis
ne peut pas
dit,
partir une semaine ou 15 jours en vacances et revenir.
si, mais en gros, on doit le stipuler.
Ouais.
Et on perd cette semaine-là. Et
Ah oui.
donc en fait, il faut très bien. Donc en fait, je vais étudier la chose, et en fait, je me suis dit, bon, avant les vacances, avant d'aller voir ma famille à Noël, il faut que je trouve quelque chose d'alimentaire. parce que je ne peux pas l'activer tout de suite. Et donc, je m'étais dit, bon, alors, on va faire la formation en mi-temps et en même temps, on va faire un petit boulot à côté. Je faisais un petit boulot à côté alimentaire. Et j'avais le visa pour. Donc, je pouvais faire n'importe quel boulot, vu que j'avais un visa résident.
Ouais.
Et donc, après, donc, je suis allé en vacances voir ma famille. Et quand je suis revenu, là, j'ai activé le chômage. Je dis ça pour aussi des Français qui seraient dans ce cas-là. C'est pour ça que je raconte ces petites anecdotes.
Ouais, ouais.
Et donc, j'ai fini ma formation. Et après, le temps de mettre tout en place, en fait, ouais, ça a pris plus de temps que ça. Parce qu'après, j'ai voulu faire un beau portfolio, etc. Donc, j'ai commencé à rechercher à nouveau du travail. Et en plus, c'était pile. Enfin, pourquoi je disais tout ça? C'est parce qu'en fait, c'était décembre 2019. Donc, là, début de Covid.
Eh ouais.
Donc, j'ai fini ma formation pendant le Covid, ce qui était assez cool, en fait. Parce que je disais, ouais, ça va être ultra chaud de trouver un travail comme ça directement. Mais en même temps, c'est bien, je suis chez moi. Je finis ça tranquillement. Bon, j'ai toujours la pression de me dire faut que je finisse dans les 6 mois parce que les allocations en Corée, c'est pas la même chose qu'en France. C'est beaucoup plus limité, quoi, dans le temps. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, j'étais ah ouais, c'est grave et tout le Covid, mais en même temps, comme j'ai pas de travail, je minimise les risques quand même de rencontrer les gens.
Ouais.
Et pour finir, et donc après, j'ai commencé à rechercher un travail, puis j'ai retrouvé un travail. Septembre de l'année 2020. Voilà.
Donc ça c'est quoi? C'est Shinsegae à ce moment-là?
Non, c'était une autre entreprise en fait, une petite entreprise et tout, qui est vraiment super et tout. Et aussi je faisais de la prédiction. C'est prédiction du futur, un forecast en anglais.
Ouais.
C'était aussi sympa, aussi pas mal de liberté et tout. J'ai aussi créé un algorithme et tout qui a bien marché, donc j'étais content. Voilà. Et après, j'ai eu l'offre de Shinsegae qui est un peu chamboulé mes plans. Parce que, en fait, c'était un truc que je m'étais dit, jamais ça arriverait. Je me suis dit, c'est tellement compliqué pour un étranger d'arriver à rentrer dans une grosse boîte ici, que quand j'ai eu cette opportunité, j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, ouais.
Et ils t'ont contacté quand, Shinsegae, ouais, alors
C'était quand? Pas de bêtises, je crois que c'était décembre, quelque chose, ou janvier, décembre 2020.
Ah oui, donc rapidement, ouais. Quelques mois après que tu aies commencé ce nouveau boulot, ils te contactent et donc tu pars là-bas. Avec quel titre d'ailleurs?
À Shinsegae, en fait, ils ont un peu changé aussi leur politique. Les titres, c'est un peu comme dans chaque entreprise, ça, c'est différent, mais le responsable d'équipe est Tim Jang, donc. Mais tous les autres, en fait, on est tous responsables.
D'accord, il n'y a pas de qualification particulière. Okay.
Ouais, on est dame-dame.
Et c'est comment alors, Shinsegae, c'est des horaires flexibles ou c'est des horaires de malade?
En fait, bien sûr, disons qu'on a la capacité de jouer avec beaucoup de données. Enfin, c'est un plaisir, j'aime beaucoup mon domaine. Donc, parfois, ça peut arriver qu'on travaille un peu plus, parce que voilà, on doit clôturer des projets. Mais globalement, oui, c'est des horaires flexibles, donc c'est assez agréable.
Donc, on ne fait pas forcément 70 heures par semaine.
Non. Ça peut arriver quand on a un crush de fin de projet, mais c'est assez rare. Hein. C'est vraiment, tous les 3 mois, quelques jours, quoi. Vraiment quelques jours, c'est surmontable. Hein. C'est quoi, 2-3 jours, on a vraiment un petit mot aujourd'hui, il va falloir cravacher. Ça peut arriver, je pense que même quand on a sa propre entreprise, on peut avoir ce genre de jour où on se dit, ouais, là, faut y aller, quoi.
Oui, non, ça peut arriver dans n'importe quelle entreprise. Et l'ambiance en général?
Très sympa, moi, j'aime bien, les gens sont très ouverts et curieux aussi par rapport à la France et à la Chine, parce qu'on est les deux seuls étrangers. Et ouais, ils sont toujours curieux, en fait, des idées. C'est ça que j'aime bien, en fait, dans ce domaine-là, c'est que comme c'est en perpétuelle évolution. En ce moment, la machine learning IA, en fait, on dit why not? On teste quelques jours, on voit qu'est-ce que ça donne, telle ou telle idée, tel ou tel algorithme. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Et puis, sinon, après, il y a bien sûr à apporter des résultats. Donc, si besoin, on retombe sur des trucs un peu plus classiques.
D'accord, ouais, mais c'est ouvert, quoi. On peut apporter ses idées. Enfin, c'est un peu plus horizontal qu'on pourrait l'imaginer, finalement.
Oui. Après, oui, il faut être sûr. Le dernier mot reste toujours au chef, ce qui est normal. Mais
au moins, on peut exprimer des idées parce que ce n'est pas du tout l'image qu'on se fait d'une entreprise coréenne typique. Mmh. On voit plutôt une organisation très verticale. Là, peut-être aussi parce que vous êtes tous des scientifiques et vous êtes tous quand même assez diplômés, j'imagine, dans ce département.
Ouais, ouais.
D'accord.
Oui, mais c'est vrai que le pragmatisme, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ça me rappelle aussi la Suède par rapport à ça. Très, très pragmatique, j'aime bien ça, quoi.
Et les vacances, alors? Combien on a de jours de vacances chez Sintegé?
Bah, comme une entreprise coréenne. Par contre, ils ont quelque chose que je ne connaissais pas avant de rentrer dans une grosse boîte, et peut-être que d'autres personnes ne le disent pas, mais en fait, dans beaucoup de très grosses entreprises coréennes, ils ont un concept qu'on appelle le Refresh Day. Est-ce que tu sais ce que c'est?
Non, mais tu m'as pas répondu. Donc, c'est 15 jours, c'est ça, les vacances?
C'est 15 jours, ouais. C'est 15
15
jours.
jours. Et là,
Et donc,
Refresh Day.
en fait, c'est qu'un jour par mois, enfin, l'entreprise ferme. C'est-à-dire qu'un jour par mois, en fait, on a aussi un jour de vacances. On ne peut pas le déplacer. Mais un jour par mois, en fait, on
Un
a
jour
souvent
par mois,
notre.
l'entreprise ferme.
Oui, en fait, enfin, on peut travailler s'il y a vraiment quelque chose d'urgent, mais en fait, aucun employé ne va dans l'entreprise. Et
C'est le même jour pour toute l'entreprise, ce n'est pas des jours différents par département ou quoi que ce soit.
bah, en tout cas, pour Shinsegae, il y a plusieurs entreprises en fait dedans. Moi, je suis en
Oui.
Shinsegae Inc. Bon,
Voilà.
Inc, oui, c'est exactement le même jour, quoi. Et donc, en fait, oui, ce qui se passe, c'est que oui, donc il y a un jour donné. C'est souvent un lundi. Et bah, en fait, c'est comme des jours fériés en plus. Donc, en fait, même si j'ai pas des vacances comme en France, j'en ai pas autant, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que en non déplaçable, j'en ai quand même 12 en plus.
Et oui, ça te rajoute sur tes, disons que tu en as 10, ça t'en rajoute 12 de plus, ça fait 22. Sauf que ceux-là, effectivement, tu ne peux pas les cumuler, etc. Non, j'avais jamais entendu parler de ça. Il y a d'autres entreprises, tu crois, qui
Bah,
pratiquent ça?
apparemment, parce que moi j'en ai discuté et tout avec des amis qui m'ont dit que oui, enfin c'était commun pour les grosses entreprises. Maintenant, je sais pas,
Je sais pas,
ça
LG, ils
pourrait
m'ont
être.
pas dit, Never, il m'a pas dit, Samsung, il m'a pas dit, mais... Bon, ils n'ont aucune raison de cacher, hein. Mais je ne sais pas, peut-être on n'en a pas parlé. Intéressant. D'accord, oui, donc ça, c'est pas mal, effectivement. Ça rajoute des jours de congé. Et justement, si tu compares, parce que tu n'as jamais travaillé en France, toi, hein, finalement, alors.
J'ai juste fait un stage de 6 mois au CEA
D'accord.
quand j'ai
Donc,
fait. Quand j'ai...
pardon, vas-y.
Non, c'était mon stage de fin d'études, en fait.
D'accord. Donc, si on compare la Suède et la Corée.
La Suède et la Corée, par rapport aux conditions de
L'ambiance de
travail.
travail, ouais, les plus et les moins de chaque côté. Enfin, je ne sais pas ce que ça t'inspire de comparer les deux pays.
Bah, il y a du bon dans tout, hein, mais alors pour dire pour, par rapport, donc je vais dire les grosses choses qui sont marquantes de la Suède et après les grosses choses marquantes de la Corée. En Suède, en fait, ce qui est marquant, c'est que c'est le tutoiement partout. Je me rappelle même une fois, j'avais dû envoyer un mail au chef du département, donc un mec qui était responsable quand même de plus de 100 personnes, et j'avais utilisé en suédois le vouvoiement. Et la
Parce que,
seule fête.
ouais, parce qu'attends, je t'arrête là pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas du tout le suédois. C'est comme le français, c'est pas comme l'anglais. C'est-à-dire, il y a un tu et un vous, de la même
Oui, en
manière.
fait, oui, il y a un tu et un vous, mais en fait, ce que je ne savais pas, parce qu'à cette époque-là, j'étais en train d'apprendre, c'est que le vous est. Ultra rarement utilisé, à tel point que c'est qu'on dit vous que au roi.
Mais voilà, c'est un
En
truc
fait,
de, oui, c'est un truc de roi. Ouais, d'accord,
mais
oui.
il y a un roi en Suède, donc ils lui disent vous pour le roi, quoi. C'est-à-dire ce pronom n'est utilisé que pour le roi. Et moi, je ne le savais pas quand j'étais en train d'apprendre, et en fait, j'ai utilisé un langage ultra poli comme on pourrait utiliser en France, quoi, au chef du département. Et donc, la secrétaire est venue me voir, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de parler comme ça et tout Donc,
C'est un peu
c'est
votre
assez.
Altesse, quoi, d'accord.
Voilà,
Ok.
c'était un peu ça.
Ok.
Et donc, ce qui est agréable en Suède, ouais, c'est le côté tutoiement et le côté horizontal, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on accueille les idées de chacun, même si quelqu'un est novice ou spécialiste, il a autant de valeur. Parce qu'il y a le côté innocence et il y a le côté expérience. Et on se dit qu'on va tirer quelque chose de bien de ça. Après, en Suède, ce qui est compliqué, c'est les réunions de décision. Parce qu'en fait, c'est très très mal poli de donner son avis, un peu comme en France. On va dire, c'est ça ce que je pense, et c'est comme ça qu'il faut faire, même quand on donne son avis. Alors qu'en Suède, c'est beaucoup plus diplomatique. Peut-être les Anglais font comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut toujours peser le pour et le contre de chaque proposition pour un projet. Il faut jamais vraiment avancer. Enfin, faut jamais dire très de manière très puissante et très directe ce qu'on pense. Il faut toujours faire croire que c'est une décision de groupe. Donc ça peut être perturbant quand
Ouais.
on travaille. Donc, il y a cette blague qui dit qu'en gros, en Suède, on prend la décision à la machine à café. C'est-à-dire qu'on fait une réunion, tout le monde dit le pour et le contre de chaque projet. On a l'impression qu'aucune décision n'a été prise. En fait, 5 minutes après, devant la machine à café, le chef va dire deux, trois mots et en fait, on va se rendre compte que c'est l'idée numéro un qui a été choisie.
D'accord, mais on passe ça en douceur, quoi. Et c'est pas
Voilà,
comme
ça,
chez
ouais.
nous, on dirait, bon, la décision, ça va être ça,
Voilà.
hop, bam. Ok, d'accord.
Donc ça permet de résoudre beaucoup de problèmes, mais en même temps, c'est très perturbant parce que parfois, on a l'impression de nager en eau trouble. Ça, c'est par rapport à la Suède. En Corée, oui. Ce qui est agréable, c'est quand même, oui, que parfois, en fait, quand le chef a une bonne idée et qu'on doit la mettre en place, il y a toujours le système qui est là en Corée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de capacité pour mettre une idée en place quand on a décidé de prendre cette idée, quoi. C'est ça qui est agréable. Après, j'ai pas vraiment, même si je travaille dans différentes entreprises coréennes, étonnamment, je trouve que j'ai pas trop vécu l'image classique de l'entreprise coréenne où on travaille énormément et où c'est compliqué de
Oui, toi,
pouvoir donner son avis.
t'as pas eu le cliché, t'as pas les restos mensuels là où tu es obligé de boire du soju, non? T'as pas ça chez Shinsegae?
Ben, en fait, c'est le Covid, donc c'est
Oui, c'est
compliqué,
vrai.
on voit ça. Mais avant, dans mon ancienne entreprise, non. En fait, il y avait parfois des véchiques, on buvait des coups, mais c'était quand même très très rare. C'était une fois tous les 3 à 6 mois, donc c'était vraiment très 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 rare, quoi. Un peu comme en France, je pense que parfois il y a des petits dîners
Oui.
de département. Je trouvais ça très similaire, quoi.
D'accord, ok.
Voilà.
Donc oui, visa F27, contrat de travail chez un des gros chaebol, à Séoul en plus, la vie de rêve. Donc là, t'es là pour durer en Corée.
Ah oui, j'aime bien la vie ici, oui, c'est assez agréable. Enfin, surtout en ce moment, je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir évoluer dans cette équipe. Il y a vraiment pas mal de. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de données et beaucoup de challenges différents dans l'équipe. Donc, c'est assez impressionnant de voir la capacité qu'on a. Comme on est un département dans un grand groupe, ils ont vraiment la capacité d'avoir énormément de gens qui sont capables de faire. La data science, du machine learning, pouvoir créer des algorithmes, ils se donnent vraiment les moyens, quoi. Bah, notamment aussi, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que aussi cette entreprise est très très connue en Corée parce que c'est les seuls, à ma connaissance, je ne sais pas si hors de Corée ça existe aussi, à faire les magasins comme Amazon, c'est-à-dire les Amazon Go, où en fait ils sont en train de développer la technologie, où en fait on rentre dans un magasin, on s'identifie, en fait tout le paiement est automatique,
Il n'y a plus de passage en caisse, mais ça n'existe
Il n'y
pas
a plus de passion.
encore. Il n'y en a pas encore en Corée, si?
Alors, ça, en fait, c'est mon département. Moi, on a même le modèle à côté. Hein. Je ne suis pas dans cette équipe-là, mais je les vois tous les jours, on discute.
Tu veux dire,
Non,
vous
ils
avez
me
une
développent.
maquette chez vous, vous avez un
Enfin, non,
magasin test?
on a un vrai magasin test ils testent différentes techniques, ils testent différentes caméras. Ils développent, en fait, ils veulent toujours améliorer la précision, la rapidité, ils testent différentes choses.
C'est un scoop, ça sort quand alors le magasin le Shinsegae
Officiellement,
Go?
je sais pas si je peux le dire. Normalement, ça devrait être assez, ça va être bientôt. Et je crois qu'il y en a déjà en fait qui est à Gimpo, mais c'est la version 1 qui était sortie, qui était pas mal. Mais là, ils voulaient vraiment faire une grosse amélioration avant de le produire massivement partout.
Et ça a un nom? Ou c'est pas encore officiel?
Si, si. Ouais, mais je le dis en coréen tout le temps, donc je sais pas comment est-ce qu'il l'appelle. Comment est-ce qu'il l'appelle en anglais, mais en gros, c'est
Bah, dis-le en coréen, alors c'est pas grave.
Winjampa.
Ok.
Donc, mais ouais, mais en fait, c'est comme un Amazon Go, quoi.
Ça veut dire la même chose? Ça veut dire go
Alors,
aussi?
non, 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 c'est un magasin sans personne, quoi. Mais
Ah,
le
c'est
truc,
encore plus
c'est que.
clair.
Mais le truc, c'est une technologie similaire. C'est vraiment, on rentre, il y a des caméras partout, on a juste identifié en rentrant. Il y a aussi des modèles, aussi ça qui est cool avec Shinsegae, c'est vraiment différents types de technologies. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément, ça c'est la technologie de pointe, mais il y a aussi des machines ou des frigos intelligents. C'est-à-dire par exemple, dans une supérette, si on veut vendre de l'alcool, sans forcément demander la carte d'identité, en fait, ils ont créé quelque chose qui est similaire, c'est-à-dire qu'en gros, on s'identifie. Si la personne vérifie, enfin, on vérifie qu'elle a la majorité, en fait, le frigo peut s'ouvrir automatiquement et on peut prendre de l'alcool.
Oui.
Ça peut être aussi bien par tag, enfin, c'est-à-dire qu'en montrant un code barre sur son téléphone, que par exemple avec une caméra. Il y a vraiment plein plein d'applications comme ça qui sont très très intéressantes.
D'accord. Oui, puis c'est vraiment le pays où ça se prête à ça, parce que bah, déjà, il y a une espèce de, comment dire, de respect un petit peu, d'absence de vol ou de dégradation, quoi. Et puis, j'ai même vu des magasins, moi, alors c'est pas cette technologie, mais tu peux acheter des glaces ou des bonbons, il n'y a pas de vendeuse dans le magasin. Tu rentres, tu prends ce que tu veux, il y a des caméras, et puis tu payes, tu laisses ton argent et tu t'en vas. Donc, c'est vrai qu'ils ont déjà, après, il faut venir avec la technologie, mais effectivement, ils ont déjà cette mentalité qui serait difficile à mettre en place en France, quoi, parce que tu imagines un magasin, même s'il y a des caméras, je pense que la France va avoir plus de choses à mettre en place pour lancer des Amazon Go, pas que la France, mais entre autres. D'accord, c'est intéressant. Très bien. Donc oui, tu aimes beaucoup le travail, mais tu aimes beaucoup aussi la vie en Corée, visiblement, hein, donc c'est l'ensemble. Justement, si tu devais t'en aller, quel est le truc, que ce soit professionnel ou personnel, quel est le truc qui te manquerait le plus, le truc que tu adores ici et dont tu aurais du mal à te passer si tu devais quitter le pays?
En fait, ouais, je pense que c'est l'activité, parce qu'il y a quand même vraiment, vraiment. Moi, j'aime. Avant le Covid, c'était possible d'y aller assez souvent, mais j'aime bien avoir des expos ou voir des concerts, que ce soit des concerts, enfin, des grands festivals ou alors des concerts plus indés à Hongdae, assez classique. Ça, c'est assez agréable, le fait de se dire, oui, on peut y aller, ça coûte pas très cher, une bonne ambiance et. C'est toujours vivant, ça qui vient. Après, oui, c'est toujours le chose qui est aussi compliqué, c'est de se dire parfois quand on veut se reposer, c'est pas toujours évident. Ça, en fait, c'est ça que j'ai remarqué par rapport à la Suède. À la Suède, c'est pour toujours trouver une certaine activité. C'est assez compliqué au bout d'un moment. Alors qu'en Corée, il faut plutôt apprendre à lever le pied. C'est très facile de partir dans tous les sens, de voir plein plein de trucs. Il y a toujours de nouveaux événements. Puis même que ce soit par exemple, je sais pas, dans un parc, ils vont faire un petit événement local. Il y aura toujours un petit truc à voir.
Ouais, mais tu serais à Paris, à Londres, à Berlin, tu aurais aussi des spectacles, des festivals, des Nantes. Tu as l'impression qu'ici, il y a plus de choses.
Bah, je sais pas, enfin, mes souvenirs, maintenant, ça fait quand même longtemps que j'ai quitté Paris, mais je ne sais pas si je retrouvais la même activité. Puis
D'accord.
à chaque fois que je vais en France, en fait, je vois mes amis, je vois ma famille, on fait deux, trois sorties, c'est sympa. Ce que j'aimais bien faire à Paris, à l'époque, quelques restos, quelques clubs un petit peu, ce que je pourrais dire, underground, c'est-à-dire des bars à vin un peu cachés, ou, enfin, les caves de Saint-Sabin, c'est assez classique peut-être pour les Parisiens, mais moi, comme ça fait longtemps que je ne suis pas allé, quand j'y vais, j'ai vraiment l'impression de me sentir dans Paris. Mais
D'accord.
je sais pas, ouais, je sais pas.
D'accord, mais toi, tu aimes bien l'activité ici, donc sur le social. À l'inverse, un truc qui ne te plaît pas du tout, là, il va falloir creuser peut-être un peu plus, un truc qui ne te plaît pas du tout et qui te donne parfois envie de quitter le pays.
Il y a des trucs, mais ça se passe par rapport à la France. Enfin, il y a deux choses. Il y a par exemple la pression du groupe, la peer pressure en fait. C'est-à-dire que parfois, enfin en France, par exemple, on peut s'habiller à peu près comme on veut, on peut se comporter à peu près comme on veut. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas trop de normes de groupe. Alors qu'ici, même si ça change, hein, il faut dire ce qui est, hein, en Corée, ça change au fur et à mesure et c'est vraiment cool.
Oui.
Parfois, certains comportements ou alors certaines manières de s'habiller ou même parfois je sais pas parfois les tatouages même ça pouvait être choquant pour certaines personnes donc c'est assez ouais ça peut être parfois lourd mais ça reste anecdotique et sinon bah ça c'est très français mais en gros moi ce qui m'étonne toujours c'est ouais c'est un truc que j'ai gardé de la France hein. Après chaque personne a sa relation avec l'argent c'est je comprends pas en fait peut-être parce que c'est un pays qui s'est développé depuis quelques décennies seulement, mais cette relation à l'argent de toujours essayer de vouloir montrer qu'on a le dernier truc, le dernier cri, qu'on s'est acheté le truc le plus cher possible, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Bien sûr, si on aime la chose, c'est bien, mais c'est pas forcément aussi automatique en France, on va dire.
Oui, il y a beaucoup de show-off. C'est toutes les générations, ça?
En fait, ça dépend des Coréens, mais c'est-à-dire que ça
Ouais.
existe aussi. Donc c'est une chose moi qui m'étonne toujours, tu vois. J'ai du mal en fait à réagir quand quelqu'un me parle comme ça. Ça m'arrive souvent de dire que ça me touche pas et que c'est une différence culturelle pour être assez poli, quoi. Mais c'est vrai que ouais, intérieurement, je ne comprends pas. Moi, par exemple, j'ai un iPhone pas forcément vieux, mais c'est pas le dernier cri. Ça peut arriver qu'on me dise, ouais, tu dois prendre un iPhone plus récent. Donc, j'étais là, waouh, je comprends pas, quoi. Enfin, je veux dire, oui, ok, c'est cool, c'est cool. Les gens aiment ça et tout, c'est bien, mais ce genre de choses. Ou alors, oui, dire, oui, voilà, ma voiture, c'est une Mercedes. Ouais, c'est bien. Mais disons que le truc que j'ai du mal à comprendre, c'est pas forcément l'achat en lui-même. C'est très beau, ça peut être très bien d'avoir une super voiture comme ça. Ce que je comprends pas, c'est parfois, c'est le fait de montrer. Je vais raconter une anecdote. J'avais un ancien collègue dans une ancienne boîte, depuis quelques temps, donc je pense que ça posera pas de problème de raconter une anecdote. Un jour, il me dit, ah, j'ai acheté une voiture et tout, c'est une BMW et tout. Il me montre la clé, tu vois, super et tout. C'est très rare, hein, c'est pas tous les Coréens, mais je fais, ah, c'est cool et tout, machin. Il fait, ah, tu vois, maintenant, j'ai une BMW, je pèse et tout. Je fais, ok. Et après coup, donc un mois après, en gros, il me dit, oui, voilà, c'était une Z3 ou je sais plus, une Z5, quelque chose comme ça. En fait, il me dit que ouais, c'était un de ses amis qui l'avait récupéré, qu'elle avait 200 000 km, qu'il avait dû changer 2-3 trucs et tout. Et je lui dis, mais enfin, après, c'est chaque personne fait ce qu'il veut, mais je lui dis, mais pourquoi tu t'es acheté ça et tout? Enfin, tu pouvais prendre peut-être un truc un peu plus récent, bon, moins tape à l'œil, mais peut-être un peu plus fiable et tout. Alors que là, ça se trouve, la caisse, enfin, ta BM qui a 200 000 km, je suis pas sûr qu'elle tienne encore longtemps. Donc, c'est genre, en fait, c'est pas un mal, c'est juste que moi, ça me choque toujours. C'est-à-dire, je suis toujours là, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu vois?
D'accord, mais c'est quelque chose qui est quand même important, quoi. C'est quelque chose qui revient, ouais, assez souvent dans la société.
Et ça touche, je sais pas combien de pourcents, c'est pas tout le monde, mais peut-être, je sais pas, 20%, 25%. Mais quand ça m'arrive, moi, ça me fait, je sais pas, ça me fait rire. Je me dis, ouais, ça pourrait peut-être changer ça.
Ouais.
Donc ça, je ne regretterais pas, quoi.
Si c'est ce qu'il y a de plus grave, ouais, c'est même pas très grave. C'est un peu ennuyeux, mais effectivement, ce n'est pas très grave. D'accord. OK. Dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris en Corée, que tu aurais bien aimé qu'on te dise avant, parce que ça t'aurait facilité la vie si tu l'avais su avant d'arriver?
Bah, plusieurs choses, oui. Donc, tout d'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que quand on a la langue est vraiment très différente d'une langue européenne. Donc, il faut vraiment accepter de changer son logiciel, c'est-à-dire faut vraiment, ouais, pas prendre les points grammaire comme des points qu'on colle exactement mot à mot à la langue française ou anglaise. Ça j'aurais bien voulu le savoir avant de partir. Et aussi, bah, tout le côté travail, en fait. Et bah, je peux donner de droits conseils. Il y a plusieurs sites où on peut trouver du travail. Il y a People and Job, il y a Salamine, bien sûr. Mais aussi, moi, je recommanderais aux gens qui voudraient venir en Corée de faire beaucoup de candidatures libres parce que ça peut marcher. Parce que par exemple, moi, ma boîte, la boîte.
En anglais ou en coréen?
Les deux.
Okay. Les deux. Enfin,
par exemple, ne serait-ce que de mettre son CV en coréen et en anglais, et une lettre motivée en coréen et en anglais, déjà, ça peut être un point d'entrée. Après, on peut très bien essayer de négocier pour faire l'interview en anglais. Mais disons que on essaye de faire chaque pas. Il faut être pragmatique. C'est aussi ça que j'aime bien en Corée, le pragmatisme. On essaye et on voit.
D'accord. Mais, tu disais, là, je t'ai coupé, où est la boîte où je suis allé?
Bah, par exemple, ouais, la boîte où j'ai travaillé pendant 3 ans et demi, c'était par une candidature libre que je suis rentré dedans. C'est vraiment.
Et comment tu fais une candidature libre? Tu l'as fait comme en France? C'est-à-dire que tu vas regarder des boîtes comme ça? Tu vas les trouver où?
En fait, ça aussi, c'est un Français qui m'a dit ça il y a quelques temps et je le recommanderais aussi aux Français parce que c'est pas trop connu aussi. C'est très très bête, mais c'est. Pour aussi avoir la capacité de toujours postuler et tout, faut postuler beaucoup quand même, hein, des centaines. Ouais. Une centaine de candidatures quand même, hein, faut pas se mentir. Mais parfois, simplement chercher des mots-clés en coréen sur Google, c'est tout. Hein. C'est-à-dire on cherche des mots-clés, on tombe sur 2-3 boîtes, on cherche un lien, s'il y a un email, on poste, et puis on essaie que ça marche. Moi, c'est ce que j'avais fait pour cette entreprise. Hein.
Ok.
Vraiment, j'avais cherché, je sais plus, c'était... j'avais cherché, je crois, c'était... un smart... wind turbine, éolienne, des éoliennes intelligentes, quelque chose comme ça. Et c'était une des entreprises qui avait popé, et voilà.
Donc, tu as écrit en coréen en disant, voilà, est-ce que vous ne chercheriez pas un ingénieur pour votre business?
Ouais, voilà, en fait, ouais, en fait, j'ai, bah, après, chacun sa technique pour postuler, mais c'est toujours, je, vous et nous, quoi. Donc, ouais. En gros, c'était, je trouve que votre technologie est intéressante, etc. Et puis, expliquer pourquoi on a un certain intérêt pour cette technologie. Il faut même s'intéresser un minimum à l'entreprise pour montrer qu'on a cet attrait-là, quoi.
Ouais.
Voilà. Et puis, l'autre chose aussi que j'aurais voulu dire, pour être assez rapide, c'est, ben, je l'ai raconté dans mon expérience, c'est que c'est toujours compliqué le premier travail ici. Et souvent, parfois, on peut être obligé d'accepter quelque chose où on n'est pas forcément bien payé pour la première année. Je ne le souhaite pas, hein, mais vraiment, si on n'a pas le choix, on le fait. Et surtout, il faut faire aussi attention, parce que ça, on ne se rend pas compte en tant que Français qui débarque ici, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont qualifiés, et en fait, le salaire minimum est assez bas. Et que ça, pour pas mal de patrons coréens, et même étrangers, ça peut être une opportunité. C'est-à-dire qu'en gros, surtout pour un étranger, je dis ça pour un étranger qui est venu ici, parce qu'en gros, le premier job qu'on a, ça nous fait rentrer en fait, dans un visa E7. Et donc, souvent, ce qui peut se passer, ça peut être. Il y a beaucoup de gens qui le veulent. On n'est pas en position de force. En
Oui.
fait, parfois, on peut être là à se dire, voilà, t'acceptes mon deal, le salaire ne va pas être phénoménal, et t'as un E7. Si t'es pas content, il y en a peut-être 10 qui vont être derrière toi pour l'avoir. Et donc, faut dire si ça si y est, c'est-à-dire que le salaire minimum en Corée, j'avais checké, c'est 1 300 et quelques bruts, quoi. Et souvent, en fait, en entreprise, pas toutes, hein, mais elles font une période d'essai où on n'est payé que 80%. Et je dis ça pas ça pour des gens qui peuvent avoir un bachelor. Il y a des gens qui ont juste un bachelor, ok. Mais aussi pour des gens qui ont un master, on va leur dire, bah, c'est super, c'est cool. Mais en gros, tu démarres avec ce salaire-là et c'est comme ça. Et en fait, on peut être très heureux parce que justement, c'est la porte d'entrée. Mais il faut quand même avoir conscience de ça que au tout début, ça peut être complexe, quoi. Et il faut
Oui,
pas.
il faut être prêt à faire des concessions,
Il faut
sachant
être
que
prêt
la
à faire
vie est
des
quand même
concessions.
très chère, parce que tu dis le salaire moyen est très bas, ce qui est vrai. Par contre, le coût de la vie, surtout à Séoul, a rien à envier à une ville, on va dire une ville moyenne française, au moins, voire Paris dans certains endroits.
Ouais, c'est
Donc
sûr.
c'est ça le challenge aussi, c'est que couper son salaire, pourquoi pas? Moi qui connais bien l'Asie du Sud-Est, c'est quelque chose que les gens font facilement là-bas, mais là-bas, c'est parce que le coût de la vie est aussi beaucoup plus bas. Ici, le challenge, c'est d'arriver à couper un peu son salaire au départ tout en acceptant un coût de la vie qui, lui, est quand même assez
Bah, disons
élevé.
souvent, enfin, ça peut arriver à devoir faire cette concession. Je le recommande pas, hein. Moi, je l'ai fait vraiment à contre-cœur,
Mais
mais
j'imagine que tu étais en coloc en plus à ce moment-là, donc pour économiser un peu, non?
Oui, mais ce n'était pas par rapport à ça, c'était plus vraiment le fait d'en avoir conscience. Parce que quand j'étais arrivé, bon, j'avais aussi un doctorat, donc je m'étais dit, oui, ça va le faire, ça ne va pas être trop compliqué. Et en fait, c'était assez compliqué, mais j'ai beaucoup appris, justement, j'ai beaucoup aimé, à force de postuler et puis d'avoir différentes expériences. Mais c'est ça, enfin, c'est ce qui est peu dit, je trouve, dans la communauté, c'est que, voilà, c'est souvent ça. Et il y a des grandes aussi disparités entre telle ou telle entreprise, quoi. Enfin, en France, c'est beaucoup plus homogène, alors qu'ici, vraiment, parfois, ça peut être assez colossal, les différences. Donc, enfin, faut en avoir conscience, quoi. S'il y a
Oui.
des gens en master, ils gagnent pas beaucoup et c'est super parce qu'ils ont réussi à venir en Corée. Et c'est aussi ça, la réalité, qu'on cache souvent parce que c'est pas facile. C'est que des gens réussissent ici, ils arrivent, mais ils luttent vraiment, quoi. Et après, toute la question, c'est combien de temps je suis prêt à le supporter pour vraiment retrouver un niveau stable ou un niveau intéressant, quoi. Et il y a des gens, après quelques années, ils se disent, bon, bah, enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire que oui, c'est cool et tout, j'ai ma vie ici, mais quand est-ce que je vais à acquérir, on va dire, un salaire qui vaut à peu près ce que j'ai fait en études, quoi.
Voilà, tout à fait. Il y a la précarité de l'emploi aussi avec le visa, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a le salaire. Donc, effectivement, il faut quelques années souvent pour arriver à se poser, se stabiliser, comme tu es arrivé à le faire toi finalement maintenant.
Ouais, c'est de longue haleine. Donc, c'est ce que je voulais vraiment transmettre aux gens. C'est, enfin, pour en avoir conscience, quoi. C'est pas. Si on peut y arriver direct, c'est super. Mais sinon, oui, on le cache beaucoup. C'est une image
Oui,
qu'on cache
oui.
beaucoup, je trouve.
Non, mais tu n'étais pas le premier à faire part de son parcours et des difficultés. Mais effectivement, tu as raison de le souligner. C'est vrai qu'il faut, il faut, il faut se donner les moyens, quoi. Il faut être prêt à faire des concessions et puis il faut savoir ce qu'on veut. Être persévérant, c'est un pays, à mon avis, c'est une immigration difficile, hein, de toute façon. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est par rapport à l'Europe, par rapport à d'autres pays. Ça peut être difficile au niveau de la langue, mais aussi au niveau de la société, des salaires, etc.
Ouais, et puis ouais, il y a aussi la chose que parfois il peut y avoir, je sais, dans l'ingénierie, il peut y avoir certaines entreprises, je ne peux pas non plus donner nom parce que c'est controversé en fait. Après, il faut toujours donner des preuves. En fait, c'est ce qu'on entend en off. C'est-à-dire certaines
Oui.
entreprises aussi qui vont dire, oui, en fait, c'est cool, mais en fait, dans notre entreprise, dans la team d'ingé, peut-être dans la team commerciale aussi, je ne sais pas, c'est peut-être possible aussi, en fait, il n'y a aucun étranger et on n'en souhaite pas, quoi. Et parfois, il y a juste la tête d'une entreprise, on va dire étrangère, qui va être, je sais pas moi, française ou allemande ou américaine, la tête sera comme ça, et toute l'armée en dessous, sera purement coréenne. Et pour une personne qui ne serait pas dans le haut de l'entreprise, essayer de rentrer, c'est ultra compliqué.
Oui. Ça, on le retrouve aussi dans d'autres pays, effectivement, où la tendance est plus d'embaucher des locaux, ne serait-ce aussi pour des raisons légales et des raisons de permis de travail, effectivement. Mais ouais, d'accord. OK. Écoute, Guillaume, merci beaucoup pour ton partage, en tout cas pour ton expérience. Pour terminer, est-ce que tu as des projets, une annonce, quelque chose que tu veux partager avec les gens qui nous écoutent?
Spécialement,
Non, t'as pas un
moi je
compte
l'aurais tout.
Instagram, une chaîne
Non,
YouTube. En général, c'est ça
non,
qui
non,
arrive à ce moment-là.
non, non, mais
Un
non, mais
podcast.
tout ce que je peux dire, c'est non, mais j'ai des trucs privés, enfin, j'ai des trucs plutôt privés,
Non, mais je veux pas te pousser à
mais ce que je
partager
peux, ce que, non, non,
tes
mais ce
réseaux
que je peux, ce
sociaux, hein,
que
je
par
plaisantais.
contre, ce que je peux dire, ce que je peux dire, c'est que je peux encore aller, c'est quelque chose d'assez bateau, mais pour toute personne, c'est vraiment bah, si vous voulez tester, venez quoi, c'est-à-dire que. Il y a des gens qui, enfin, faut savoir vivre ses rêves, quoi. C'est-à-dire que parfois on n'ose pas, et faut essayer. Même si parfois après on rate, au moins on a essayé, c'était super, quoi.
Ouais, ok. Ouais,
C'est ce
voilà, il
que je
faut
dirais, quoi.
essayer, il faut le tenter. La
Ouais.
Corée, ça se tente.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Au moins.
Ok. Eh bien, écoute, merci Guillaume. Sur ces bonnes paroles, on va rester là et puis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!